Histoire de terre.
C'est vrai que je me présente comme paysan vigneron parce que je fais tout, beaucoup de choses manuellement et moi-même. Il y a plus de déséquilibre à l'échelle planétaire, disons. Évidemment, ça se ressent au niveau local. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on a sélectionné énormément les vignes pour avoir des clones vigoureux, avec des qualités gustatives. Mais on a appauvri en fait la diversité génétique de la vigne. Et là, ça commence à rechanger, comme il y a un gros basculement.
Bienvenue dans Histoire de Terre, l'émission mensuelle sur l'agriculture vous emmène cette fois-ci un peu vers le sud, dans le Tarn, chez Nathanaël Parnaudot, vigneron dans l'appellation Gaillac. Il est locataire d'une petite surface dans le domaine de Matins. Fils d'agriculteur, dans un Gaec classique, il a cherché des terres avec des amis pour travailler à plusieurs et selon leurs convictions. Et la recherche l'a mené à découvrir le métier de vigneron. Juste à côté de lui, on trouve par exemple un de ses amis, paysan boulanger. L'émission a été co-réalisée cette fois-ci avec Anne, qu'on entend un peu dans le reportage. Nous commençons comme toujours par une balade au milieu des champs, au milieu des vignes, pour que Nathanaël Parnaudot décrive son activité, son travail, et nous continuons en abordant des thèmes sur l'agriculture aujourd'hui, notamment la question des maladies de la vigne, les différents types d'agriculture. Lui travaille selon les méthodes de l'association Nature et Progrès, et il a participé aussi à la lutte contre le barrage de Sivens, à côté de chez lui, à 5 km, là où Rémi Fraisse a été tué l'année dernière par la gendarmerie.
On est arrivé à Gaillac donc avec les copains pour la formation de maraîchage de Carlo, pour pouvoir avoir le diplôme. Et de là, on a rencontré tout un tas de gens ici, plus ou moins dans l'agriculture d'ailleurs. Et notamment, à Matins, il y avait ce gîte, il y avait des soirées, il y avait et tout un tas de choses. Donc du coup, j'ai rencontré Thierry,
qui était la personne qui faisait
le vin ici. Et du coup, lui qui voulait arrêter parce que il avait trop mal au dos et que les gîtes, déjà, ça prenait pas mal de place. Ça s'est fait comme ça. Là, c'est le cépage le plus tardif, donc il a encore quelques feuilles qui sont d'une couleur un peu jaune, verdâtre, parce que l'année est un peu exceptionnelle au niveau de la douceur, surtout là, cette première quinzaine de novembre. Donc normalement, à cette époque-là, toutes les feuilles sont par terre. Voilà, les derniers travaux que j'ai fait dans la vigne, c'est de retravailler, rechausser un peu sur le rang, c'est-à-dire travailler le sol le plus près possible des pieds, donc à l'automne, pour qu'il y ait le moins d'herbe possible donc au démarrage des végétations au printemps.
Rechausser.
Oui, rechausser, c'est-à-dire comme on travaille avec des outils qui passent entre les pieds sur le rang, parce qu'on ne désherbe pas chimiquement, c'est tout en agriculture biologique, donc c'est des outils qui vont désherber plus près du pied. Mais souvent, on enlève de la terre. Donc, on rechausse, on remet de la terre sur le rang. Voilà. Tout le reste, on laisse enherber un maximum l'hiver, parce que c'est la période où l'herbe peut pousser, ça gêne pas la vigne et ça maintient la vie du sol. Bon voilà, après on taillera dans l'hiver à partir de... Alors moi, comme c'est une petite surface, du coup ça commence au plus tôt mi-décembre, tranquillement. Voilà. Mais en général c'est janvier, février, mars, le plus tard possible.
Voilà. Une petite surface. C'est-à-dire
ouais. C'est-à-dire, là, je travaille sur 3 hectares et demi. Donc c'est petit parce que dans le coin, pour une ferme moyenne, enfin une exploitation viticole moyenne, c'est plutôt 15-20 hectares. Voilà, et donc là, je suis dans les plus petites fermes de viticoles des environs de Gaillac, quoi. Mais ça me permet de tout faire parce que voilà, je suis tout seul à travailler, avec évidemment de l'aide de ma femme. Mais voilà, la plupart de l'activité, c'est moi qui le mène. Donc la taille, l'entretien, la vinification, l'étiquetage, la vente, tout ça. J'ai pas d'employé, j'ai pas de salarié. Ce qui permet de vivre avec ça. La deuxième raison qu'on vit avec si peu, c'est aussi qu'on fait de la vente directe aux particuliers. Donc ça demande du temps. C'est un petit peu tout le temps. C'est pas comme quand on envoie des palettes en export. Mais c'est l'avantage de valoriser bien les produits et d'avoir une clientèle aussi fidèle qui peut pas s'effondrer comme ça d'un coup. Donc une certaine assurance aussi. Que les marchés, des fois, que ça soit en grande surface ou à l'international, quand ça marche c'est bien, mais peut-être que quand ça marche plus, ben, on n'a plus rien derrière. Voilà. Donc c'est un peu le principe de la microéconomie, quoi, un peu. Voilà.
Là, on est toujours sur le même cépage qui s'appelle.
Donc le cépage, c'est le Mozac.
Mozac.
Voilà, la vigne est découpée en deux cépages. On voit où il n'y a plus de feuilles là. Et c'est un autre cépage qui s'appelle le Loin de l'œil. Très spécifique à Gaillac. Parce qu'on le trouve quasiment que ici. Depuis très longtemps. Il s'appelle le Loin de l'œil parce que, pour l'anecdote, c'est la grappe qui est loin de l'œil du bourgeon. Si on veut comparer l'extrême inverse, ça serait le Sauvignon, par exemple, qui est un cépage blanc aussi, qui a des très petites grappes et qui sont plutôt ramassées vers... voilà. Donc c'est un cépage généreux, en tout cas cette vigne est très généreuse, elle est assez productive. Elle est assez jeune, elle a une quinzaine d'années. Ça permet de faire un blanc sec assez léger. Et aromatique avec sa typicité locale. Voilà. Il y a quand même des grands rameaux, des grands sarments. Hein, qu'il y a certaines vignes qui sont beaucoup, beaucoup plus. Donc on voit la vigueur, quoi, de cette vigne. Encore maintenant.
Donc le matériel sur place, là, c'est des piquets et des fils de fer pour les aligner. Pour pas que ça parte dans tous les sens, pour qu'on puisse bien circuler avec un tracteur au milieu.
Ouais, c'est ça. C'est le palissage classique d'ici. Des pieds plantés à 1 mètre, tous les 1 mètre, avec un écartement des rangs en 2,20 m. Voilà, donc le palissage, un fil qui porte la baguette et deux fils principaux qui relèvent les sarments. Une fois que la végétation a poussé, donc à peu près en juin. Voilà. Et éventuellement, sur quelques-uns, on a fait des essais pour augmenter le palissage. On a rajouté deux autres fils.
Est-ce qu'il y a d'autres cépages qui ont un autre aspect encore?
Oui. Alors après, on peut aller de l'autre côté. On peut continuer par là d'ailleurs, comme ça.
Continuons. On est dans le soleil couchant presque. Ouais.
Donc ici, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on est sur ce qu'ils appellent dans l'AOC les premières côtes de Gaillac. Mais voilà, pour moi, c'est les premiers coteaux, c'est-à-dire que Gaillac est sur le Tarn. Donc là, il y a la vallée du Tarn qui se prolonge. Et tout le long, il y a des coteaux orientés est, à peu près. Donc là, c'est ces premières collines. Nous, c'est notre... C'est des terroirs qui sont utilisés depuis a priori 2000 ans, selon les spécialistes. C'est très ancien, la vigne à Gaillac. Voilà, et ça fait... Il y a trois terroirs à peu près sur le Gaillacois. Et celui-là, le plateau Cordet, donc qui est un plateau calcaire. Et plutôt des graves, des terres un peu plus limoneuses, caillouteuses. qu'on va retrouver principalement de l'autre côté du Tarn. Donc ça donne aussi une certaine diversité au sein de cette petite zone, ce qui offre des vins au final différents d'un secteur à l'autre. En plus de la variété de cépages assez important sur le Gaillacois.
On n'est pas comme dans certaines régions viticoles avec le moindre mètre carré utilisé. Il y a aussi là un champ où il n'y a pas de vignes, en face aussi, il y a d'autres agriculteurs qui font autre chose. C'est pas comme on peut voir dans le Bordelais à certains endroits, ou vers la Bourgogne.
Oui. Parce que c'est vrai que ici, en tout cas sur les coteaux, puis à d'autres endroits, dans les années 60 encore, tout était recouvert de vignes. C'était une période assez faste au niveau de la vinification, au niveau des vignes. Donc il n'y avait que de la vigne. Donc là maintenant, ça c'est avec les crises successives, parce qu'il faisait beaucoup de rouge qui partait à l'export, qui était de qualité très médiocre. Contrairement à des périodes plus anciennes où la qualité des vins de Gaillac était très réputée, notamment ça allait enrichir un peu les vins de Bordeaux à l'époque. Alors je ne sais plus quelle époque d'ailleurs, mais il y a longtemps, il y a trois siècles peut-être à peu près. Voilà, donc c'est en permanence en changement suivant les époques. Et puis après, il y a le côté, c'est-à-dire que le Tarn, c'est assez rural. Hein. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui avaient quelques hectares de vignes, des vaches par exemple, et puis qui faisaient aussi un peu d'ail ou par exemple des choses comme ça. Donc c'était très polyculture, élevage, avec la vigne intégrée dedans. Et puis comme toute culture agricole, ça s'est spécialisé, industrialisé. Et donc aujourd'hui, il y a des structures qui font du vin, il y a des structures qui font du lait, il y a des structures qui font des céréales. Voilà. Mais il y a encore quelques anciens, disons, qui sont pas très anciens, parce qu'ils sont encore en activité, mais qui ont cette diversité-là. Voilà.
Chez vous, il y a une diversité ou vous produisez que du vin, entre guillemets ?
Alors, moi, je fais que du vin. C'est mon activité principale. J'aimerais diversifier plus. Alors, d'un autre côté, où on essaie de diversifier, c'est que on essaie de travailler en entraide avec d'autres agriculteurs sur d'autres domaines. Ça peut arriver d'aider des maraîchers ou le copain qui est là, donc Carlo et Angélique, qui font du pain, ils ont des céréales, ils sont aussi sur le domaine de Matins, et donc on s'entraide beaucoup sur que ça soit dans les vignes pour les vendanges ou d'autres choses, ou éventuellement quand il y a besoin de trier du blé ou autre quoi. C'est un peu comme ça, donc je retrouve la diversité aussi là-dedans. Et après, dans le paysage, on a quelques poules, on essaie de planter des arbres fruitiers, des choses comme ça, ou de replanter des haies, et éventuellement, à terme, accueillir quelqu'un qui veut le faire autre chose.
Ça fait combien de temps que vous êtes là ?
Ça fait 8 ans.
Vous pouvez nous dire un peu comment vous en êtes arrivé à venir là ? Vous deux ?
Mais non, on s'est rencontrés du coup une fois que j'étais installé.
D'accord.
Donc le projet de départ était seul. Enfin seul, pas complètement seul, parce que justement je voulais refaire de l'agriculture, mais parce que mes parents étaient agriculteurs. J'ai pas suivi la ferme familiale, mais j'avais un projet collectif avec d'autres amis, deux autres familles, Donc on a cherché une ferme où on puisse faire et du maraîchage et des céréales et de l'élevage. Et puis bon, ça a été compliqué, donc du coup je me suis retrouvé, enfin on a préféré au bout d'un moment se dire bon ben on continue, on commence seul et puis on verra après plus tard. Et finalement dans le Tarn on s'est bien retrouvé dans les échanges avec d'autres agriculteurs ou d'autres personnes. Ça peut être aussi des échanges de coups de main avec d'autres personnes que des agriculteurs. C'est dans la vie locale aussi. Je devais faire du maraîchage et je me suis retrouvé à faire de la vigne, comme ça.
Est-ce que cette ferme familiale que vous n'avez pas repris, que vous auriez peut-être pu reprendre, enfin ou pas, c'était où, c'était quoi?
C'était dans le Poitou, c'était un GAEC, dans le Poitou, dans les Deux-Sèvres exactement. Et donc, j'avais pas pris une orientation agricole au départ. Des cousins ont remplacé mon père et un oncle. Et puis voilà, donc c'était en polyculture élevage, mais sur des dimensions assez grosses, avec une orientation déjà un peu toute tracée, quoi. Alors que moi, j'étais partant pour faire quelque chose de petit. Donc le maraîchage, au départ, ça m'allait bien. Si je me suis retrouvé dans la vigne, c'est que ça restait accessible aussi et qu'il y a pas mal de travaux manuels à faire aussi. Les céréales, ça me plaît moins, beaucoup de tracteurs. Voilà, puis bon, j'avais une petite expérience diversifiée dans l'agriculture, mais aussi dans la viticulture. Je savais déjà tailler ou des choses comme ça. Je partais pas de rien quand même.
Vous avez étudié l'agriculture, une formation?
Oui, j'ai fait une petite formation en maraîchage, ce qu'on appelle un BPREA. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Responsable d'exploitation agricole, à la fin.
Brevet professionnel.
Voilà. Donc, qui permet d'avoir quelques outils en main pour mener, je dirais, à notre époque, une ferme, ce qu'on appelle une exploitation agricole. Voilà.
On longe des très jeunes ceps.
Voilà, c'est ça. Alors, là, c'est donc un cépage qui s'appelle le Prunelard. Donc, qui est un vieux cépage aussi gaillacois, qui a quasiment disparu, celui-là, et qui a été remis un peu sur les rails. Et qui est replanté là petit à petit. Je sais pas combien il y aurait d'hectares jusqu'à pour l'instant, mais pas encore énorme. Je dirais une trentaine d'hectares peut-être. Et donc voilà, donc j'avais eu en location ce cépage-là il y a quelques années. Et donc j'ai pas gardé le fermage. J'ai préféré replanter plus près. Donc voilà, ça a 2 ans.
Et chaque cep est entouré de son grillage là, parce que ils sont vulnérables, ils peuvent être mangés par des animaux, j'imagine, c'est ça?
Alors ouais, c'est ce qu'on appelle les filets à lapins. Bien qu'il n'y ait pas tellement de lapins ici, mais ça sert aussi contre les chevreuils, un peu plus de chevreuils. C'est-à-dire qu'un chevreuil qui mange une jeune pousse au printemps, disons que ça peut retarder de 3 ans le démarrage de la vigne. Donc c'est pour ça, et puis aussi c'est visuel, parce qu'on peut se faire dépasser, il peut y avoir beaucoup d'herbe. Un pied qui est au milieu de l'herbe et qui a juste quelques feuilles au départ. Voilà. Mais là, c'est au bout de 2 ans, là je les enlève. C'est ma première plantation, donc du coup, je fais un peu à ma manière. Et là, j'ai décidé de pas palisser avec le fil comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire de les laisser en gobelet. Donc il y a un piquet à chaque pied qui le maintient droit. Alors ça fait une taille un peu plus circulaire, un peu moins sur un même plan. Parce que là, en fait, on est orienté, ça fait une espèce de combe. Et c'est orienté plein sud, sud-sud-ouest. C'est très très chaud. Cette taille permet un peu plus d'ombre au moment les plus chauds de la journée. Parce que les étés, on a vu, ça peut être quand il fait 39 degrés, sur des vignes palissées, j'ai régulièrement des brûlures. Traditionnellement, c'est ce qui se faisait beaucoup. On en voit beaucoup dans le Languedoc-Roussillon encore, surtout dans les Pyrénées-Orientales. Il y a des très vieilles vignes qui ont jusqu'à 200 ans, qui sont encore comme ça. Alors ça fait des pieds très, très étranges, très torturés. Donc là, en ce moment, j'enlève les filets, justement, et je remplace les pieds qui ont eu soit un accident en travaillant autour, soit voilà, qui sont morts. Pourquoi, je ne sais pas, trop d'herbe ou pas assez d'eau. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà. Ça va en prendre soin, comme c'est démarrage.
Est-ce que vous savez ce qui vous différencie des agriculteurs qui utilisent des produits chimiques, des vignerons du coin qui utilisent, qui sont pas dans la démarche Nature et Progrès, et puis qu'est-ce qu'ils utilisent comme produits, et est-ce que vous il y a des choses qui sont plus compliquées à faire parce que vous pouvez pas utiliser certains trucs très utilisés par d'autres. Est-ce que vous pouvez un peu comparer comme ça, ou peut-être pas, peut-être vous connaissez pas trop ce que font les autres.
C'est vrai que je connais pas tous les produits. Disons que moi j'ai une orientation en tout cas assez minimaliste, disons, au niveau de l'intervention sur la vigne. C'est-à-dire que je traite vraiment ce qui est le danger, par exemple, c'est principalement le mildiou. L'oïdium se gère assez facilement, mais le mildiou, c'est beaucoup de traitements, souvent les années à risque.
La bouillie bordelaise.
Bouillie bordelaise, principalement. On peut compléter avec de la prêle, des tisanes d'ortie, des choses comme ça, qu'on essaye de faire. Mais ça va être principalement le cuivre qui va être le principe actif. Mais on en met très peu, mais très souvent. Voilà.
Vous en mettez?
Oui.
C'est pas interdit par votre label?
Non. Non, parce que c'est pas une molécule de synthèse. C'est-à-dire que la bio, on n'utilise pas de molécules créées chimiquement, qui sont des molécules qui se dégradent pas, ou très mal. Ça finit par se dégrader, comme tout, mais très mal. C'est pour ça qu'on le retrouve dans des nappes très, très profondes. On retrouve, je sais pas, du DTT par exemple, dans des nappes, alors que ça fait 50 ans qu'on ne l'utilise plus. Donc voilà, le cuivre, c'est pas la panacée au niveau du sol, parce que ça a tendance à tuer aussi les champignons du sol, et en forte dose à créer des blocages. Voilà, mais comme on réduit les doses et qu'on entretient des sols au niveau vie biologique, normalement tout ça doit se réguler. C'est aussi bien, le cuivre aussi bien un métaux lourd qui peut s'accumuler dans les corps, y compris nous, et aussi un oligoélément, donc un besoin. Donc voilà. Et souvent, on est critiqué en bio parce qu'on met beaucoup de cuivre. Donc on polluerait plus que ceux qui utilisent des molécules de synthèse. Mais il se trouve que dans les molécules de synthèse, il y a souvent du cuivre qui est associé. Donc de toute manière, là-dessus, c'est pas... Puis là, on a fait vraiment beaucoup d'efforts. On a divisé par 15 en 30 ans les apports de cuivre.
Il y a des gens qui accusent les vignerons bio de trop polluer.
C'est souvent la critique qu'on fait à l'agriculture biologique, d'une manière générale, quand on est convaincu que les produits synthèses sont pas nocifs pour l'environnement. C'est-à-dire que voilà, on renvoie la balle un peu, et c'est vrai que c'est une difficulté, on aimerait s'en passer, quelque part, du cuivre, puisque ça peut être une source de pollution. Mais néanmoins, on n'utilise pas les autres, notamment tout ce qui est désherbant. Et d'ailleurs, je dirais que c'est la plus grosse difficulté pour nous. le gros travail, il est de gérer l'herbe. C'est pas de gérer les maladies au final. Enfin, pour l'instant, tant qu'il y a le cuivre. Parce que les vignes se portent plutôt bien ici. C'est vrai que ça fait 30 ans que c'est en bio. Il y a des pressions moins importantes d'oïdium, par exemple, que sur le voisin. Et puis après, il n'y a pas tellement d'autres problématiques. Si, il y a la flavescence dorée, on a quand même. C'est entre le virus, la bactérie, un peu de ce sorte-là. On va dire que c'est un virus, à peu près. Et donc c'est transmis par une petite cicadelle, ce qui est un insecte très petit, tout petit. Et donc cette maladie s'est fortement développée dans les années 90, à peu près. Et autour de l'année 90. Et donc ça a ravagé entièrement des vignes parce que ça se développe très très vite. Et on ne sait pas intervenir sur le virus. Donc on intervient sur le vecteur, sur la cicadelle. Donc voilà. Et il y a toute une campagne d'éradication de la maladie, même si j'y crois pas. De toute façon, pour l'instant, c'est le seul moyen, c'est de lutter sur le vecteur. Alors c'est vrai que ça. Nous on intervient avec du pyrètre naturel, donc qui agit environ une demi-heure. Et après c'est dégradé, photodégradé en général. Et puis donc c'est une action choc sur les petites larves de cicadelle. Voilà, normalement on est obligé de faire deux voire trois traitements, que ce soit en chimie ou en agriculture biologique. Ça arrive qu'on en fasse moins parce que par l'observation, on se rend compte que c'est pas nécessaire. Voilà.
C'est-à-dire, ça veut dire que s'il y a moins d'une certaine quantité de larves, on n'intervient pas ?
Si on n'a pas de maladie et si on a très peu de larves, ça justifie pas forcément le traitement. C'est pour ça qu'il y a des procès en cours, je ne sais plus, quelqu'un en Bourgogne, là, ça a été très, très diffusé comme information, qui est en procès par rapport à ça. Parce que lui, il n'y avait pas de présence de maladie, ni de cicadelle, ou très peu de cicadelle. Et ils l'ont obligé à traiter, toute une action juridique. Donc après, bon, il y a des tas de maladies autres que ça. Il y a les maladies du bois, il y a qui font que la vigne dégénère, elle meurt prématurément. Il y a des nouveaux insectes qui arrivent aussi, il y a certaines bactéries peut-être qui vont arriver. La vigne est quand même très malade. Hein. Mais voilà, vraiment, pas plus en bio que chez les voisins.
La vigne est très malade, de plus en plus malade, ou en général c'est un végétal qui est fragile, c'est ça, c'est quoi ?
Non, au départ c'est un végétal qui est assez costaud, mais à partir du 19e siècle, avec l'arrivée de l'oïdium, après le mildiou, le phylloxéra, depuis c'est une cascade en fait de plus en plus rapprochée de soit de maladies, soit de virus, soit d'insectes ravageurs ou des choses comme ça. Mais c'est normal, c'est dans toute l'agriculture, voire même tout l'environnement où il y a plus de maladies, il y a plus de déséquilibre à l'échelle planétaire, disons, que évidemment ça se ressent au niveau local. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on a sélectionné énormément les vignes. Pour avoir des clones vigoureux, avec des qualités gustatives, mais on a appauvri en fait la diversité génétique de la vigne. Et là, ça commence à rechanger, comme il y a un gros basculement. Oui, par exemple sur cette petite vigne là, qui a 25 arts, il y a 7 clones différents. Et deux porte-greffes différents. Donc on essaie quand même à la plantation déjà de diversifier un peu au niveau génétique.
Et d'un cépage dont vous avez dit en plus qu'il est quasiment plus utilisé. Voilà. Vous avez cette volonté de réutiliser des cépages, en tout cas d'en avoir des différents, des nombreux.
D'une part, je trouve ça passionnant d'avoir quelque chose de très diversifié au sein même du lieu. Et puis ça permet d'appréhender un peu l'avenir aussi, avec pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. C'est un peu ça aussi. Donc le prochain projet de plantation, c'est de planter directement des porte-greffes qu'on fait bouturer en terre et de greffer par la suite. Alors qu'ici, c'est des pieds qui sont greffés chez des pépiniéristes. Et donc, on nous apporte les plants comme ça. Voilà. Et c'est vrai que des fois, les pépiniéristes ont une mainmise, si on peut dire, sur cette partie-là, parce que c'est très réglementé, il y a des droits de plantation. Enfin, ça évolue, mais... Mais du coup, c'est très industriel et on ne peut pas toujours se fournir dans ce qu'on veut, les clones. Donc là, voilà, en plantant directement, ça demande beaucoup plus de travail après de greffage. Mais ça permet d'avoir du matériel végétal peut-être plus diversifié. Pourquoi pas, peut-être même mettre plusieurs cépages dans la même vigne. Des choses qui se font plus, quoi. Qui se faisaient avant.
Vous êtes toujours dans Histoire de Terre sur Radio Vassivière avec Nathanaël Parnaudot, vigneron à Gaillac dans le Tarn.
Voilà, enfin des idées comme ça, il y en a plein, pas que ici, hein, il y en a plein et ça c'est bien. On repart vers une envie de diversité et ça c'est bien.
On est quand même dans un endroit où il y a d'énormes tensions dans l'agriculture. Là, il y a 5 km, la mort de Rémi Fraisse l'année dernière. Des agriculteurs, en tout cas, on a entendu dire d'un syndicat qui sont absolument contre les occupants, qui sont contre le projet de barrage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette ambiance-là ou de ces luttes-là, vous ? Vous avez rien à dire, peut-être.
Si, j'aurais des tas de choses à dire parce que je l'ai vécu d'assez près. Parce que oui, parce que c'est vraiment pas loin. Et parce que j'étais présent depuis un moment, comme beaucoup d'autres, positionné contre ce barrage. Par contre, je ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences quand on s'oppose à quelque chose aussi forte au niveau local. C'est-à-dire que des violences qui ont été faites sans que la gendarmerie protège les uns ou les autres, avant et après la mort de Rémi Fraisse d'ailleurs. Je sais pas, en fait il y aurait tellement de choses à dire, mais là je sais pas trop par quoi commencer.
Déjà, est-ce que vous appartenez à un syndicat ou à un groupement? Donc on redit, vous vendez vos produits sous un label, Nature et Progrès.
Ouais.
À part ça, vous êtes dans un groupement ou syndicat
d'agriculteurs? Je suis sympathisant à la Confédération Paysanne. Je suis pas adhérent. Je sais pas trop pourquoi, parce que oui, je ne me reconnais pas toujours dans ce qu'ils défendent, mais... Et puis j'avais pas envie de m'engager aussi, parce qu'à chaque fois qu'on adhère à quelque chose, évidemment, il faut aussi se retrousser les manches et participer. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et comme déjà Nature et Progrès, ça m'a pris du temps ces dernières années... Voilà, je voulais pas m'impliquer aussi à la Confédération Paysanne. Mais bon, ils ont bien participé de cette lutte contre le barrage, qui n'est pas fini. Bon, le drame dans tout ça, c'est que on sent bien que l'agriculture est quand même en train de changer, qu'on commence à arrêter de subventionner le maïs irrigué. Commence à aller vers d'autres voies, qu'on réintègre des légumineuses dans les rotations, y compris au niveau de l'Europe et des subventions. Donc faire un barrage pour faire de la semence de maïs. C'est une voie d'avenir pour eux, même s'ils sont pour. Voilà, j'en suis pas certain. Et voilà, c'est dommage que ça soit aussi tranché au niveau des idées. Il y a pas assez de, ça brasse pas assez, quoi. Mais bon, c'est un peu la mainmise ici de certains gros agriculteurs qui ont à la fois des positionnements politiques, des positionnements dans des firmes ou des choses comme ça. Donc, c'est complexe.
Il n'y a pas de lieu où vous discutez tranquillement de ça avec des gens qui sont d'autres avis.
Non. C'est pas facile. C'est souvent difficile. On est souvent les mêmes à se retrouver. Bon, évidemment, tout ça, ça crée des émulsions entre les personnes qui sont venues. Donc ceux qu'on a appelés les zadistes qui sont venus d'ailleurs, qui ont campé sur place, qui ont donné toute leur énergie. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont par ici, qui sont dans des projets, ou qui viennent. Ça crée quand même des ponts, c'est des gens, des personnes qu'on n'aurait jamais connues. Il y a des gens qui ont pris position. Qu'on n'aurait pas cru qu'il se donne autant de mal à préserver cette zone. On va dans la cave.
Dans la cave, ouais.
Dans les...
Alors d'abord,
plutôt dans la partie cave, bouteille ou...
Ouais. On passe un peu partout, puis après on vous laisse. Cette odeur, là on entre dans la cave.
Ouais, ça va, il n'y a pas d'odeur bizarre.
Bah, un petit peu quand même. C'est pas...
Voilà la cave. Du coup, c'est un bâtiment de... Je sais pas, il fait à peu près 10 mètres de long sur 8 de large. Voilà. Avec des cuves de toutes dimensions. Voilà, 5 hectos, 10 hectos, 50 hectos, 30 hectos.
C'est vos investissements, tout ça ?
Alors, c'était déjà là, disons, comme j'ai repris la vigne, c'était déjà sur une petite structure. Ils avaient un tout petit peu plus de vigne. Donc, j'ai pas changé grand-chose. La cave était en place, les cuves aussi. J'ai racheté les cuves au fur et à mesure, au bout de 2 ans, quand j'étais sûr de continuer. Parce que j'ai beaucoup appris au tout début avec l'ancien vigneron, donc mon propriétaire actuel. Voilà, donc là il y a du vin principalement de cette année et tout petit peu de l'année précédente qui sera mis en bouteille au printemps prochain. 2015, c'est une très belle année au niveau du vin. Au niveau des rouges, c'est plutôt des rendements assez bas, un peu en dessous de la moyenne. Et du coup, il y a vraiment une matière importante. Donc ça va faire des vins qui vont se garder davantage. Donc on va plutôt les laisser évoluer en barrique ou en cuve avant de les mettre en bouteille. J'ai toujours une cuvée de toute façon que je mets en bouteille, une cuvée ou deux. Donc je laisse en barrique principalement donc un an, et donc ça fait en tout depuis la vendange il y a un an et demi de cuve. Par contre, les blancs et les rosés vont être mis en bouteille au printemps, les blancs de cette année, au printemps 2016.
Les garder en barrique, ça change quoi au niveau de la qualité du vin ?
C'est surtout les contenants. Fait que le vin va respirer tranquillement, il va se dégazer. On les met en barrique là, on les laisse un an. On les houille de temps en temps parce qu'il y a une partie qui est absorbée par le bois ou que c'est évaporé. Donc on rajoute du vin pour faire le niveau, pour pas qu'il y ait trop d'air à l'intérieur. Et après on soutire. Donc évidemment, ça fait des vins qui prennent un peu de goût, de boisé ou de vanille quand c'est des barriques neuves. Mais s'il y a assez de matière au départ, ça va faire des vins qui se gardent très très bien avec une belle structure. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et là, je les mets pas dans cette partie-là parce que c'est vrai que l'été ici, ça chauffe quand même assez. C'est pas une cave enterrée. On n'est pas dans la Loire ou dans des endroits comme ça.
Voilà. On va voir la gamme.
Ouais.
La gamme et puis un petit mot sur la vente directe.
Nature et progrès peut-être.
Nature et progrès, mais oui. Progrès, toujours le progrès. Ouais. Alors, la boutique, c'est ici que vous vendez une bonne partie de votre vin ?
Ouais, c'est ça.
Par les bouche à oreille, les gens viennent.
Oui, il y a le fait que c'était un domaine, donc mes propriétaires étaient déjà en bio avant, à Nature et Progrès. Donc là, ça fera en tout 30 ans que c'est en bio. Du coup, c'était un des premiers domaines. Ils étaient deux ou trois à l'époque, dans les années 80, à passer en bio. Donc il y a déjà cette histoire-là, avec une partie de la clientèle locale ou moins locale. Et puis après, comme nous on a davantage accès encore sur la vente directe, enfin dans la suite, on a fait quelques marchés, un ou deux festivals dans l'année en local, une foire bio, etc. Donc là, des portes ouvertes. Donc ce qui fait que localement on est assez ancré. Et en effet, après le bouche à oreille, la venue aussi au gîte apporte aussi des clients. Et puis après des réseaux personnels qui ont été développés un peu plus loin, en Ariège notamment et dans le Poitou d'origine. Voilà.
Donc vous faites pour représenter aux auditeurs de Radio Vassivière, vous faites des vins qui vont de 5 à 11 euros en gros la bouteille, non ?
5 à 9 euros, oui.
5 à 9 euros, vous faites du blanc, du rosé et du rouge.
Ouais,
mais la plus grosse partie, c'est du rouge.
C'est du rouge, ouais. La plus grosse surface de vigne, c'est du rouge.
Et puis vous avez aussi, des étiquettes d'un style. On sent qu'il y a un graphiste qui est passé par là. C'est pas la traditionnelle. Château de machin, comme d'ailleurs ouais. Énormément de vignerons. C'est un côté un peu moderne du relookage des étiquettes de vin.
Ben c'est vrai, mais d'une part.
Des petits noms rigolos aussi.
Je me sentais pas du tout.
Matin, avec des jeux de mots.
Ouais. Ça me disait pas du tout de mettre domaine ou château, sachant que voilà, c'était pas ça le but, quoi. C'est vrai que je me présente comme paysan vigneron parce que je fais tout, beaucoup de choses manuellement et moi-même. Donc je voyais pas l'intérêt de dire domaine ou château au départ sur les étiquettes. Et voilà, comme je connaissais pas trop le vin au départ, je savais pas non plus quoi mettre. Alors on est plutôt parti sur des délires de copains, quoi, donc autour du jeu de mots matins, quoi.
Parce que vous n'avez pas repris la façon dont ils vendaient le vin avant les
précédents. Non, j'ai pas repris les. Ben, il y avait des cépages qui manquaient, il y avait une petite cassure. J'avais envie peut-être de me démarquer aussi, de faire des choses un peu différemment. Voilà, ils faisaient pas de blanc sec par exemple, ils faisaient que de la méthode gaillacoise ou du blanc doux. Alors que moi, ça me plaisait bien, blanc sec, j'aime bien ça. Et puis après, je voulais faire des rouges aussi plus typés. Donc des brocoles, le brocol c'est un cépage de Gaillac, le fer cervadou. Ouais, des monocépages aussi pour sentir bien le terroir, parce que c'est un cépage qui a des intérêts de bien marquer le terroir et qu'a son authenticité. Ce qui n'est pas toujours facile à voir ce qui va donner, mais voilà. Et après, d'autres cuvées plus classiques, comme on a du Merlot en rouge aussi, voilà, ça va correspondre à des choses voilà, plus classiques, mais c'est l'intérêt aussi de cette vigne, c'est que c'est une vieille vigne de Merlot, enfin, qui a 30 ans, et du coup, c'est quand même une certaine stabilité dans les années. On ne prend pas des risques à chaque fois. De faire des vins trop hétérogènes. Donc voilà, l'avantage des deux. Et après avec ça, avec ces deux cépages, je jongle un peu entre des cuvées un peu plus légères, des cuvées très charpentées ou qui passent en barrique. Voilà.
Et vous êtes labellisé donc Nature et Progrès. Il y a le panneau là, donc pour la santé de l'homme et de la terre. Mention Nature et Progrès 2008, Nathanaël Parnaudot. Tous les ans, quelqu'un de ce groupement là, enfin ce label, vient vérifier les choses. Comment ça se passe?
Voilà, c'est ça. Donc c'est une marque, donc c'est associatif. Ça existait avant le label officiel, le label AB officiel, hein. Et donc ils ont gardé leur cahier des charges. Continuer parce que il y avait des choses qui étaient pas assez poussées dans le cahier des charges officiel, donc voilà, ils se sont démarqués un petit peu comme la biodynamie principalement c'est principalement les deux qui sont restés au niveau de la bio, et puis après là avec le label européen il y a d'autres labels qui se sont développés, et donc c'est associatif, donc dans le Tarn c'est assez développé. Et on a mis en place un système, ce qu'on appelle un système participatif de garantie. Donc ça va être des consommateurs, des producteurs, qui vont enquêter chaque année chez un autre producteur. Et donc ça va croiser un peu différents... Chaque année, ça va changer, hein. Et donc avec une assemblée qui va dépouiller ces enquêtes-là, au sein de l'association, donc c'est des personnes qui sont élues dans l'Assemblée Générale, et donc qui vont décider de la mention ou pas, ou des remarques à faire, des évolutions, voilà. Et donc ce qui est intéressant, Nature et Progrès, c'est qu'il y a le mot progrès dedans. Bon, le mot nature, on voit ce que ça donne. Progrès, ça fait un peu, peut-être un peu désuet aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de meilleur, de plus complet. Par exemple, si on fait des vins, si on utilise des sulfites, par exemple, eh bien, on va essayer d'en mettre de moins en moins. Parce que dans la logique, parce que c'est naturel, voilà, donc d'année en année, on essaye d'améliorer les choses. Que ça soit... Dans la production ou dans la transformation. Voilà, et ça c'est quelque chose d'intéressant, et dans le cahier des charges, c'est pas on a droit, on n'a pas droit. C'est que ce qui est conseillé, c'est ça. Ça peut être autorisé, mais déconseillé. Mais on peut pas l'enlever parce que c'est trop compliqué. Et après, il y a des choses qui sont vraiment interdites. C'est globalement plus contraignant ou plus restrictif que le cahier des charges AB classique, enfin AB ou bio européenne. Voilà, c'est aussi une association, donc une fédération nationale et des associations départementales ou locales en tout cas. Il y a des groupes un peu partout en France. Et donc à travers ces groupes-là, on organise aussi des foires, Ici dans le Tarn, c'est la foire Biocibelle, qui est une des plus grosses foires de Midi-Pyrénées, qui a plus de 30 ans aussi. Voilà, donc c'est aussi un tremplin pour faire découvrir la bio, pour défendre la bio, pour... Ouais, c'est intéressant le fait que ça soit en association et que c'est les producteurs qui maîtrisent le cahier des charges aussi. Et que c'est pas toujours des choses qui sont tombées de là-haut. Voilà.
Tout à l'heure, on s'est interrompu. Je t'ai interrompu parce qu'il y avait le tracteur.
Ah oui, alors moi j'avais une question sur cette aide. Vous avez parlé des CUMA, oui. Et des banques de...
Banques d'entraide.
Des banques d'entraide.
En fait, c'est une formule pour... c'est-à-dire que donc les CUMA, c'est pour le matériel. C'est des structures qui sont en place pour avoir du matériel en commun, à plusieurs. Les banques d'entraide, c'est un système qui permet à des agriculteurs de s'entraider. Ça peut être du service. Ça peut être donc ça peut être de la main d'œuvre, mais ça peut être aussi l'utilisation d'un outil. Ça peut être éventuellement, je ne sais pas si ça peut rentrer dedans, mais voilà, une partie de la récolte. Et donc on tient un cahier avec des équivalences pour être transparent vis-à-vis de la loi, quoi, tout simplement.
Vis-à-vis de la loi ?
Ben, c'est-à-dire que toute aide peut être transformée comme du travail au noir, par exemple. Donc voilà, ça permet de... Ou une société de fait. Ça peut aller... C'est souvent ce qu'on reproche aux... Parce que l'entraide dans l'agriculture, c'est obligatoire. Donc c'est toujours un peu flou, ces histoires-là. Alors, en fait, j'exagère, parce que c'est pas que vis-à-vis de la loi. Ça peut être aussi pour une bonne entente. Ça dépend un peu de quel système on choisit. C'est vrai que quand il y a des choses... parce qu'ici, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec de l'entraide, je dirais, entre amis. C'est vrai que l'agriculture plus classique, on s'entraide avec les voisins. Voilà, moi, j'ai connu ça gamin. Quand c'était les foins ou l'ensilage... voilà, il y avait tous les voisins, et puis après on allait chez les autres, et, etc. Et donc là, c'est bien aussi d'avoir une certaine équité dans l'échange de travail.
C'est possible de vivre avec cette activité-là simplement, ou votre famille a une autre activité lucrative en complément
Alors, ma femme travaille à mi-temps, elle est auxiliaire de vie scolaire personnalisée. Voilà, c'est pas un emploi des plus c'est-à-dire que c'est sur une durée limitée donc ça durera que quelques années voilà, donc l'activité nous dégage un revenu, ça c'est certain. Après, la question de est-ce qu'on vit avec ça, oui, on vit avec ça. Est-ce qu'on vit bien? Après, ça, c'est l'affaire de chacun, en fait. Voilà, nous, on a fait le choix de vivre en mobil-home, par exemple. Il y en a qui auraient besoin de plus. Alors, peut-être avec cette activité, ça n'irait pas. Mais voilà, faut bien être sûr de ses charges aussi. Voilà, ça a été possible aussi parce que c'était très progressif. J'ai pas eu d'emprunt au départ. Donc voilà une certaine légèreté pour démarrer. Ça c'est pareil, c'est personnel. Hein. Moi les emprunts je vais en faire maintenant, mais parce que j'ai un peu plus d'assurance, je sais où je vais, mais c'était pas ma tasse de thé au départ. Donc voilà.
Pour investir dans l'avenir ?
Aujourd'hui, là bah oui, comme je suis en pharma jusqu'à maintenant, bah pour permettre la construction de bâtiments, de ma maison, voilà, j'ai besoin d'être propriétaire aujourd'hui et pour pérenniser un peu l'activité et puis nos choix de vie, quoi. Mais voilà, c'est possible. Les choses sont possibles lentement. Ça fait 8 ans que je suis là, toujours pas de maison, mais ça se fait.
C'était Nathanaël Parnaudot, vigneron à Gaillac, dans le Tarn, dans l'émission Histoire de Terre sur Radio Vassivière. Merci à Anne pour m'avoir accompagné dans ce reportage. Histoire de Terre passe le mercredi à 19h et le samedi à 11h en alternance avec l'émission Impact. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur radiovassivière.com.